Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors, au sommaire aujourd'hui, l'interminable feuilleton du Brexit.
C'est ça, énième étape, pas de validation en tout cas pour l'accord de Theresa May, mais pas de Brexit sans accord non plus. En deux votes coup sur coup, donc mardi et mercredi, les députés britanniques ont encore une fois acculé Theresa May et rendu plus flou peut-être la date du Brexit. L'Union européenne ne veut plus renégocier. La solution, dit-elle, est au Royaume-Uni, mais elle reste à fabriquer. Laquelle sera-t-elle? On voit ça avec vous, Richard Davies. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Alors, on est dans l'attente aujourd'hui d'un troisième vote au Parlement. On va en reparler, mais comment est-ce que vous voyez les choses pour la séquence du début de semaine? Donc, rejet de l'accord de Theresa May d'un côté, rejet du no deal de l'autre côté, donc pas de sortie sauvage, mais toujours pas de sortie ordonnée selon les termes de Theresa May. Est-ce qu'elle est désavouée plutôt selon vous ou toujours en course? Comment faut voir les choses?
Je pense que la situation est de plus en plus confuse, surtout pour la Première ministre elle-même. Son autorité est bafouée complètement depuis hier, encore plus qu'avant, mais elle continue sur le même chemin. Elle va sans doute représenter son deal encore au Parlement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc elle semble pas vouloir changer de cap.
Alors quand vous parlez d'autorité bafouée, est-ce que c'est rapport à l'écart de voix et au désaveu de ce vote de mardi relativement à son accord? Parce que c'est un écart de voix qui est moins fort que lors du rejet du 15 janvier, là, c'était 432 voix contre 202. Avant-hier, mardi, c'était 391 voix contre, 242 pour, 152 différences. On pourrait dire qu'elle remonte un peu quand même auprès du Parlement.
En effet, c'est son espoir que si elle le représente encore une fois cette semaine, et peut-être une quatrième fois la semaine prochaine, qu'elle petit à petit, elle va mettre ses adversaires devant le choix final entre son deal et pas de Brexit du tout. Donc ça va peut-être faire changer d'avis les plus durs des Brexiteurs. Hein. Mais ce qui a changé hier, c'est la situation au sein de son gouvernement. Donc il y avait 13 ministres qui se sont abstenus dans le vote, et il y a un ministre qui a démissionné depuis, qui a voté contre. Donc l'autorité à l'intérieur de son gouvernement est complètement, ça n'existe plus. Hein.
Oui, c'est ça, elle vient de perdre la 15e membre de son gouvernement avec Sarah Newton, qui était la ministre chargée du handicap. Justement, si vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vraiment compliqué, qu'est-ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi, début de soirée? Il y avait une députée, Caroline Spellman, qui avait soutenu un amendement pour empêcher un Brexit sans accord, qui finalement l'a retiré. Et finalement, on arrive à cette situation un peu étrange dans laquelle effectivement des ministres s'abstiennent contre le propre amendement qu'ils sont censés porter.
Oui, c'est absolument incroyable, ça c'est du jamais vu. La situation au Parlement que j'ai suivie à la télévision en direct, c'était très, très... très confuse parce que, voilà, comme vous avez dit, le député Madame Spielman a finalement décidé de ne pas demander son amendement au vote, mais que ça a été voté quand même parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Et contre toute attente, donc ce vote a passé contre le gouvernement de justesse, et dans un deuxième vote, donc là, plusieurs ministres se sont abstenus et la 14e a voté contre. Donc c'était une situation un peu chaotique au Parlement hier soir. Donc on est dans un domaine vraiment du jamais vu hier soir.
Pardon. Oui, parce qu'on est arrivé à cette situation un peu limite où effectivement la première proposition de Brexit sans accord a été rejetée à 312 voix contre 308 avec l'aide de députés conservateurs. Alors si on revient au début de semaine maintenant et qu'on parle de la stratégie de Theresa May vis-à-vis de l'Union européenne et du Parlement. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a bien négocié ces fameuses garanties juridiques qu'elle était venue chercher à Strasbourg lundi dernier? Garanties juridiques, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit obtenir des réassurances juridiquement contraignantes sur, en gros, le caractère provisoire du maintien dans l'union douanière l'Irlande, c'est-à-dire une garantie du non-retour de la frontière irlandaise. Finalement, désavouée, dit-on, par l'attorney général Geoffrey Cox, le mardi matin. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne négociation?
Non, on ne peut pas dire que c'est une bonne négociation. Justement, vous parlez de garantie, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de garantie. Et ce que disait justement Monsieur Cox, je pense qu'elle n'a pas pu renégocier complètement, renégocier du tout l'accord qu'elle a signé. Donc, ça n'a pas fait changer d'avis suffisamment de députés qui sont toujours farouchement contre le deal proposé par Madame May. Pour ces gens-là, en fait, le Brexit, le deal de proposé par Madame May n'est pas le Brexit, n'est pas suffisamment Brexit. Donc, ils préfèrent un no deal que le deal proposé par Madame May.
Et dans cette situation, puisque la question c'était celle du backstop, le filet de sécurité irlandais, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas simplement techniquement coincée au moins sur cette question, c'est-à-dire que sans abandonner le backstop, il n'y a pas d'accord validé possible par le Parlement et notamment par les DUP unionistes, et qu'en même temps il n'y a pas d'accord avec l'Union européenne possible sans la question du backstop, et de toute façon pas renégociable, a dit l'Union européenne.
En effet, donc il me semble absolument impossible de régler ce problème-là. Soit elle abandonne le DUP et les plus durs des Brexiteers, et elle cherche un accord avec certains travaillistes pour un accord pour un Brexit encore plus moins dur, avec peut-être un maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière, ou sinon elle continue en espérant que le DUP et les Brexiteers vont changer d'avis. Mais les deux cas ne me semblent pas très probables pour l'instant, donc c'est difficile à prévoir. Une sortie de la crise.
Oui, et qu'on reparle de la stratégie. Donc, il a été avéré. Il y avait une vidéo le montrant, je crois, autour du 14 février ou mars, qui est sortie, qu'il y avait une stratégie où il s'agissait de rallier les plus ultras des Brexiteurs à force de votes successifs, en quelque sorte faire plier le Parlement, comme vous l'avez évoqué. Est-ce que ça veut dire d'une part que cette stratégie s'est effondrée parce qu'elle reposait justement sur la question d'un no deal toujours possible qui n'existe plus, et que donc cette rhétorique de mon accord ou le chaos n'existe plus aujourd'hui pour Theresa May, ou alors elle est encore possible? Vous parliez de vote à venir encore.
Je pense qu'il est encore possible que le vote sans deal passe encore. C'est peut-être même le plus probable des scénarios. Mais c'est très difficile de savoir. Elle ne semble pas vouloir changer de cap. Donc, elle s'entête dans sa stratégie.
Oui.
Donc, aujourd'hui, c'est vraiment... Et peut-être avec l'approche de la date finale, le 29 mars, peut-être ça va changer d'avis des gens. Hein, et c'est difficile à savoir.
Et quelle durée de vie, si on peut parler ainsi, vous donneriez à Theresa May? Déjà, est-ce qu'elle peut tenir jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire mercredi prochain, la date prévue pour un troisième vote là sur l'accord sur le Brexit? Entre-temps, elle devrait être revenue du côté de l'Union européenne.
Ouais, j'ai regardé de près Madame May hier soir à la télévision, et elle semble vraiment de plus en plus fatiguée physiquement, mentalement. Elle doit être épuisée. Cela dit, changer de Premier ministre en ce moment n'est pas envisageable. Ça remettrait tout en question. On ne peut pas changer de Premier ministre juste comme ça du jour au lendemain. Il fallait revoter au sein du Parti conservateur. Donc je pense que pour l'instant, elle va rester au moins jusqu'à la fin du mois. Mais c'est clair qu'avec son autorité, elle va bafouer complètement depuis hier, encore plus qu'avant. Son avenir à la tête du gouvernement est limitée dans le temps, hein, ça c'est clair.
Et donc du moins, elle devrait obtenir aujourd'hui, selon vous, ce mandat pour un report de la date du Brexit, cette extension de l'article 50, ça, pas de problème?
Ça me semble assez logique, la suite logique des votes d'hier soir. Mais bon, la logique n'est plus d'actualité au Parlement britannique en ce moment. Il se passe des choses incroyables.
Oui. Et une dernière chose qu'on voit revenir, donc il y a cette question possible. On verra de vote en cascade sur des options avec un Brexit soft. C'est ce que vous expliquez quand vous disiez qu'il faudrait peut-être un rapprochement avec les travaillistes. Mais il y a aussi Nigel Farage qui est revenu en force avec une sortie au Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force d'allonger ces négociations, de voir venir un peu dans l'actualité ce thème de la trahison de 2016, tout simplement? Et là, situation vraiment assez insupportable pour plusieurs députés, enfin même une partie de la classe politique.
Bon, Nigel Farage a parlé au Parlement européen, pas au Parlement de Westminster.
Oui, c'est vrai.
Mais,
oui.
Euh, Mais c'est clair que cette idée de trahison est là depuis toujours, depuis 2016.
Oui, parce qu'il a pris la tête d'un parti anti-Brexit, voilà, je le précise de nouveau.
Oui, tout à fait. Donc, et en plus, donc, il y a pas mal de conservateurs qui sont tout à fait d'accord avec Farage. Voilà, c'est la menace de campagne contre le Parlement, en accusant tout le Parlement, tous les députés de trahison, ça monte en force en ce moment. Donc, c'est très inquiétant la situation dans le pays.
Oui, donc situation politique à surveiller. Le vote d'aujourd'hui, la date du 20 mars, on aura l'occasion d'en reparler. Et merci beaucoup pour vos explications ce matin, Richard Davis, professeur de civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des relations Royaume-Uni-Union européenne.